émission Araga dirigée par Kamar Idir. Ma chronique, revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum ajma'at l'harraga nafi da'at galer.
L'émission Harraga, la voix des sans voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
C'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah l'azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Harraga de Marseille. Bakhir l'harraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, nous sommes à Rabia, à Rabia, à bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. C'est Idir qui vous parle des studios de Radio Galère. On est le jeudi 18 décembre 2025. Bon, on commence par vous donner les titres. L'intersyndicale 13 a fait appel à l'ensemble des AEH et des personnels de l'éducation à se mobiliser, y compris par la grève dans le département. Ce mardi 16 décembre, ils étaient une centaine à se mobiliser et à se rassembler devant la DSDEN, boulevard Charles Nedelerck. Juste après, vous allez suivre l'entretien qu'on a réalisé, les interviews, présent à la conférence de presse à Gardanne, du livre de René Naba, Georges Ibrahim Abdallah, L'homme muré de Lannemezan. Un homme debout, ça s'est déroulé le 12 décembre à Gardanne. Enfin, la découverte d'un Martiniquais, oui, d'un écrivain martini qui s'appelle d'abord, d'ailleurs Martini Gabourg, écrivain poète, que vous allez le découvrir. Bonne écoute.
Musique Aïdir.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvenés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo, d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie de l'école. En dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort anthème est redevenu l'exception. À la fin de l'année,
Georges Brassens.
Dernier de la classe, ex-écho de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre
Boulevard
classe.
Boulevard Lederach, on est le 16 décembre 2025, mardi bien sûr. Depuis le printemps dernier, les organisations syndicales FSU, SE, UNSA, CFDT Éducation, Formation Recherche Publique, CGT Éduc Action, SNALC et Sud Éducation ont mené une campagne pour que soit enfin mis à l'ordre du jour l'obtention d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH avec une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 83 000 signataires, ce qui démontre le soutien total de toute la communauté éducative et au-delà pour les AESH. En effet, ces personnels exercent leur métier avec professionnalisme et sont devenus un maillon essentiel permettant l'inclusion d'élèves en situation de handicap. Le métier d'AESH est une profession à part entière et les missions pérennes qu'il et ou elle exerce ne fait pas débat sur leur nécessité. La situation à la rentrée 2025 a montré à quel point ce métier souffre d'un manque d'attractivité, multiplication des démissions, licenciement pour inaptitude, rupture conventionnelle et le maintien dans la précarité de ces 140 000 agents n'est pas de nature à inverser la tendance. Il est temps de donner un signal fort. C'est pour soi l'intersyndicale FSU, SE, UNSS, CFDT, Éducation, Formation, Recherche, Publique et CGT, Éducation, SNALC et Sud Éducation poursuit la campagne pour la création d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, aussi bien au niveau national qu'au plus près de leur travail. Écoutez le reportage réalisé par Tamara.
Vous m'entendez?
Attends. Vas-y.
Vous m'entendez? Veuillez nous excuser pour le petit retard qu'a pris ce procès, mais sachez que la justice a besoin de temps.
Aménagement de poste en cas de besoin thérapeutique.
Puisqu'aujourd'hui, un collègue qui est en situation de handicap demandera un aménagement de poste, l'administration lui répondra que c'est impossible et il finira, et elle finira par être licenciée.
Bonjour.
Bonjour.
Et, qu'est-ce que vous faites là avec le micro? C'est un jeu? C'est quoi exactement? Présentez-vous d'abord.
Oh, Amélie, enseignante, représentante des personnels à l'FSU SNUPP. Et bien, on joue malgré les difficultés dans nos classes. On est là pour défendre et réclamer un vrai statut de fonctionnaire pour nos collègues AESH qui aujourd'hui ont des contrats précaires. et n'ont pas la possibilité du coup de s'installer ni dans des conditions financières ni dans des conditions de travail correctes. Et donc l'école inclusive aujourd'hui ne peut pas être réalisée comme elle l'est proposée dans la loi.
Donc ils sont dans une situation précaire.
Oui.
Alors,
on a réussi à avoir, elles ont gagné l'accès au CDI.
Ouais.
Sauf que c'est un CDI à moins de 1000 euros par mois, donc elles ne sont pas encore sorties de la précarité en tout cas.
Et depuis quand que ça dure ce problème?
Puis la création même du poste, en fait, les postes n'ont pas été mis en place correctement.
Ouais.
La loi de 2005 sur l'école inclusive n'a pas été assortie de moyens, donc il n'y a jamais eu d'emploi réel mis en place.
Donc là, vous êtes en face à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, oui. Et le rideau vient juste de tomber. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'ils craignent une autre colère? Je ne sais pas.
Est-ce que vous continuez à faire vous battre ou bien...
Tout à fait. On a l'objectif d'une école pour tous et toutes. Donc on ne lâchera pas nos intentions. C'est nous les professionnels du terrain. Donc on veut que notre professionnalité, notre expertise soient entendues.
Et vous avez cité des centres d'éducation, tout ça, ils ont des problèmes aussi?
Oui, mais alors
comme
je n'en ai pas parlé
les IME.
Tout à fait. Mais nous, ce qu'on réclame, c'est que les IME puissent travailler avec les écoles.
Ouais.
Parce que les établissements spécialisés, c'est leur grand atout, c'est des personnels spécialisés.
Ouais.
Et on sait que c'est l'école qui pourra permettre à tous et toutes de progresser ensemble. Donc il faut que les personnels spécialisés puissent aussi intervenir dans les écoles.
Alors, est-ce que vous avez eu des pourparlers avec eux ou non? Pour le moment, il n'y a pas de...
Oui, bien sûr, on milite avec des camarades du médico-social également.
Non, je parle de la direction.
Oui, là, on est reçu. Là, voilà, il y a des personnels qui sont... Voilà, tout à fait.
Donc le combat continue si rien ne...
Tout à fait. Et aujourd'hui, les lois sont votées, les lois du budget sur de l'éducation nationale sont votées. Donc c'est aujourd'hui que tout pourrait aussi basculer pour nos collègues AESH.
Alors, bientôt les élections, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a donc l'extrême droite qui essaie de... Les squales qui essaient de manger tout.
Tout à fait. En tant que travailleur, et notamment dans les écoles, on sait qu'on est les premiers éducateurs pour la citoyenneté et contre les idées fascisantes.
Cette année, Noël, ça va être dur un peu.
On sera ensemble. Regardez, on a la force d'être là, donc ouais. Ça sera dur, mais ça ne sera pas seul.
Ouais. Et seul, vous voulez dire avec qui?
La chance du service public, c'est d'être une équipe de service public.
Mais j'ai remarqué, il n'y a que des femmes.
Oui,
ils sont où les hommes?
80% dans l'éducation nationale, on a une grande majorité de femmes. Dans les métiers du soin, c'est les femmes qui sont...
Et qu'est-ce que j'allais dire à ceux qui nous écoutent à Radio Galère?
On est ensemble.
Et le combat continue?
Tout à fait, ensemble.
Et moi, je vous dis bon courage.
Merci.
Et l'éducation.
Merci pour le travail à Radio Galère aussi.
Ouais,
bravo pour
Je suis venu hier, ils m'ont fait un piège, il n'y avait personne.
Les équipes médico-sociales
sur chaque établissement. Merci. Bonjour. Alors, vous êtes qui?
Je m'appelle Sébastien, je suis à ESH en élémentaire.
Alors, où ça? Dans quel...
À Marseille.
À Marseille, oui.
Dans le panier, école François Moisson.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est assez global, en fait. Il se trouve que nous, on est plutôt privilégiés, j'ai envie de dire, malgré tout. Mais je commence à ressentir cette année de la lassitude, de la colère.
De plus en plus.
Oui, enfin, oui. Et la difficulté face au... Comment dire, un problème qui nous est, qui est le métier, quoi, en fait. Je saurais pas comment vous dire là, les mots ne viennent pas là, mais c'est difficile quoi, lorsqu'on est. Alors ça dépend des enfants. Il y a des enfants plus faciles à gérer, j'ai envie de dire, mais parfois. Il est difficile de suivre le rythme scolaire pour un enfant qui a, comment dire, des difficultés, tout simplement.
Mentales, des difficultés physiques.
Alors, il y a de tout. J'ai eu plusieurs élèves depuis plus d'une décennie, quoi. Mais actuellement, je sais que j'ai un enfant qui a besoin de temps pour comprendre. malgré tout, le professeur, suit le rythme qui lui est imposé sans doute, quoi. Le rythme scolaire, le programme, pardon. Il applique son programme, mais l'enfant en difficulté, s'il ne suit pas, c'est compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour lui, quoi, en fait. Donc on prend le temps pour lui expliquer, réexpliquer, essayer de trouver les biais cognitifs ou je ne sais quoi. Enfin, on se met à sa place, on essaye de lui expliquer d'une manière ou d'une autre, mais tout ce temps qu'on prend, on prend du retard par rapport à l'ensemble de la classe, et ça peut être difficile, mais bon. Plus globalement, une sorte de forme de lassitude en fait. Quoi. Ça fait 13 ans cette année, j'en ai un petit peu marre.
Pas d'amélioration quoi.
Alors, il y en a eu.
Par rapport
au métier, des améliorations, mais assez légères, j'ai envie de dire quoi. Ça fait donc 13 ans, je suis toujours précaire, je vis avec sous le seuil de pauvreté. À part le salaire, c'est plein de petits détails, hein, franchement, au quotidien. Mais d'autres collègues pourraient peut-être vous en dire un peu plus. Ça ne me vient pas forcément.
Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées pour ces enfants?
Il y a des classes spécialisées.
Des classes.
Non. On reçoit parfois des profils d'élèves, d'enfants. Qu'ils n'ont pas leur place. Tous les enfants ont leur place à l'école, mais parfois il y a des profils qui sont vraiment très difficiles, qui mériteraient d'être mieux encadrés. On n'est pas éducateur, on est là pour l'apprentissage. On n'a pas de formation. On a parfois des réunions d'information, mais j'en ai eu une en 13 ans. On apprend sur le tas. Hein. De toute façon, moi, ce qui me concerne, j'ai appris sur le tas on s'adapte. On improvise, on cherche. Alors, il y a ce côté un peu, stimulant aussi, c'est de trouver des solutions, en fait, avec ce qu'on a, quoi, en fait, tout simplement, quoi, face à la difficulté de l'enfant. Et voilà. Bon, alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Pour moi, ce n'est plus épanouissant, quoi. Il y a eu des années fastes où vraiment j'étais heureux d'aller travailler. Cette année, je vous avoue que beaucoup moins. Quoi.
Est-ce qu'il y a eu des arrêts, par exemple graves, suicides, tout ça, des profs, des non?
Chez nous, non, nerveusement, on parle beaucoup de santé mentale actuellement. Je crois que ça doit être pris en considération parce que c'est difficile. Parfois, on se retrouve. L'important, c'est pas de rester seul, quoi. Ouais, effectivement, c'est d'en parler. Mais le rythme que nous impose cette année, je trouve que il vient difficile de discuter, d'échanger, de partager, de partager parfois ses difficultés, essayer de trouver des solutions avec d'autres. Je trouve qu'on n'a pas trop de temps pour échanger, voilà. Et nous-mêmes, notre santé mentale à nous, quoi, est-ce qu'elle est prise en considération? Je suis pas sûr, quoi. Voilà. Alors, quand on a la foi, on est heureux de travailler, de trouver les solutions qu'il faut. Mais moi, j'ai une certaine lassitude, ouais, effectivement, de la colère, de la tristesse. Il y a beaucoup d'émissions. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de moins en moins d'AESH. Il y a de plus en plus d'enfants à inclure dans l'école. Ça crée des problèmes. Tout à l'heure, j'entendais une collègue qui disait qu'il y avait 11 enfants. 11 enfants, on entend des fois des choses assez... Moi, j'ai pas trop à me plaindre, hein, mais à ce niveau-là, en tout cas. Mais 11 enfants... C'est vrai quand il y a un manque quelque part parce qu'un collègue est en arrêt ou quoi que ce soit, on nous place là évidemment où il y a besoin. C'est déstabilisant, c'est énormément déstabilisant pour l'enfant, pour nous-mêmes, il faut tout de suite s'adapter. Alors je ne sais pas si c'est très clair tout ça, c'est un tout, quoi. Un tout qui crée de la lassitude pour moi. Quoi. Voilà.
Rappelez-moi votre prénom et fonction.
Sébastien, AESH, donc accompagnant d'enfants en situation de handicap.
Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Et bon courage.
Merci
et bon vent.
Merci beaucoup.
Je viens tout le monde et vous avez tout à lâcher.
et à tous. Et merci et que la vie continue et on ira plus loin, en espérant.
Il est basé sur les recherches réelles,
de plusieurs. Dans les, ils sont en point de vente. Oui, mais où tu les vends? Où tu l'achètes? En librairie.
Alors la vente, c'est un silence. Vous allez dans les librairies.
Attends, dans les librairies.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi. D'abord, présentez-vous.
Voilà, je m'appelle Frédéric Grimaud. Ouais. Je suis prof des écoles et je suis aussi chercheur en sciences de l'éducation.
Ouais.
Et j'ai mené une recherche sur le travail des AESH.
Explique-nous, c'est quoi comme recherche ?
Eh ben, en fait, c'est une recherche en analyse du travail, hein, ok ? Et qui avait pour objectif de visibiliser les gestes de métier des AESH et de montrer que ce qu'elles font, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail qui nécessite des compétences, qui nécessite une expertise professionnelle et que paradoxalement, cette expertise n'est pas reconnue par leur administration.
Expliquez-moi, il y a des manifs partout, il y a des profs, des enseignants, ils sont en colère, rien ne bouge.
Ah, dans le pays en général,
voilà.
C'est vrai. En fait, je sais qu'il y a Emmanuel Macron dans la rue d'en face, là. Peut-être c'est lui qui devrait. C'est là-bas qu'on devrait aller pour lui parler. Effectivement, il y a les paysans, il y a. La sens. Honnêtement, depuis quelques années, partout ça gronde. Enfin, qui c'est qui est content? Les hôpitaux, les. Voilà, il y a rien qui va. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est spécifique sur une profession qui est quand même particulièrement maltraitée. Les AESH, ce sont des femmes qui. Essentiellement des femmes, hein, 95% de femmes dans les Bouches-du-Rhône. Qui accompagnent les élèves qui sont en situation de handicap dans les écoles. Sans elles, il y a certains enfants qui ne pourraient pas aller à l'école. Donc c'est un métier qui est socialement extrêmement important. Okay ? Et pour autant, l'administration, elle les paye même pas 1000 euros et avec des contrats qui sont renouvelés, avec pas de possibilité de mobilité. Donc elles ont raison aujourd'hui d'exiger d'avoir un vrai statut de la fonction publique.
Alors vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous leur apportez pour En même temps, c'est des mamans quand même, c'est une éducation.
Oui, d'accord, c'est vrai. Mais alors, les syndicats, alors, c'est pas que forcément des mamans, mais en tout cas, c'est souvent des femmes, ça c'est vrai. Et dans la société, on accepte plus facilement que les femmes soient précarisées que les hommes, vous savez. Il y a une tolérance à la précarisation par le fait que ce soit des femmes, ça j'en suis persuadé. Et le syndicat aujourd'hui, il a demandé une audience au directeur académique pour toutes les revendications qu'elles ont. Donc là, ils sont actuellement en audience.
Et vous, à Martigues, comment ça se passe à Martigues?
Alors, on est venu à deux voitures d'AESH qui se sont mises en grève et aussi des enseignants qui les soutiennent parce que ben, les profs, nous, on les soutient parce que si elles ne sont pas dans nos classes, on voit la différence. Moi, je travaille et je suis très content d'accueillir des enfants en situation de handicap dans ma classe, mais le jour où il y a l'AESH, le jour où il n'y est pas, c'est le jour et la nuit, y compris pour cet enfant qui, du coup, ben, on lui prête moins d'attention, etc., puisqu'il n'a plus la personne qui s'occupe de lui. Donc, les profs, on les soutient aussi, on est là et on est venu de Martigues. Parce que c'est ici qu'il y a les services départementaux, voilà, c'est ça.
Donc il faut un changement.
Ah oui, là il faut un changement. Il faut qu'elle devienne fonctionnaire. Il faut qu'elle devienne fonctionnaire pour être protégée.
Ouais.
Il n'y a pas d'autre option. Là on se met dans la rue, le temps que les copines qui sont en audience, là, vous voyez, vous entendez, ça chante.
Ouais.
Parce que les autres sont en audience, et bien comme ça leur donne de la force pour porter les revendications.
Vous entendez quelque chose
Eh oui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, ça se passe dans toutes les grandes villes de France. Donc après, ça va remonter au ministère. Voilà, on attend du ministère qu'ils reconnaissent le statut d'AESH.
Si vous voulez rajouter quelque chose.
Bon, c'est bon, moi ça me va, c'est nickel.
Va.
Ouais, merci
de m'appeler. Votre prénom et fonction.
Frédéric Grimaud, je suis professeur des écoles.
Merci Frédéric d'avoir répondu
bientôt.
À nos questions.
Merci.
Merci, bon courage.
À bientôt.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous.
Alors moi je m'appelle Christophe, je suis AED, c'est ma cinquième année, je suis en cinquième année de CDD, je suis au lycée de Pertuis dans le Vaucluse.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous êtes là?
Alors nous on est là parce que en fait le statut d'AED comme les AESH c'est un statut qui est très précaire. C'est un statut qui est très mal payé, qui n'est pas considéré et on souhaiterait avoir de réels droits et être reconnu pour le travail qu'on fait.
Alors parlez-nous de cette ville Pertuis, comment elle est, l'ambiance, l'atmosphère, d'abord de la ville.
Pertuis, c'est,
village, je sais pas quoi.
Ouais, c'est une petite ville du Vaucluse, à l'entrée à la frontière des Bouches-du-Rhône. C'est une ville sympathique où il fait bon vivre, pas très loin du Luberon et à proximité de tout.
Alors vous êtes éducateur, non?
Pas éducateur, je suis assistant d'éducation justement.
Vous faites ça aussi.
Le métier d'AED, c'est pas un métier, c'est plusieurs métiers.
Plusieurs
on fait plein de choses. On est un peu tout ce que ne sont pas capables de faire dans l'éducation nationale certains postes, ben on nous les donne. On est infirmier, on est éducateur, on est policier, on est assistant social, on est psychologue, on fait un peu tout ce que les autres ne veulent pas faire.
En fin de compte, vous n'êtes pas reconnu, quoi.
Et en fin de compte, on n'est pas reconnu. La preuve en est qu'aujourd'hui, moi, je suis à ma 5e année de CDD. L'année prochaine, j'aurai peut-être droit à un CDI au bout de 6 ans. À savoir que faire 6 CDD de 1 an, il n'y a que dans le public qu'on voit ça. C'est interdit dans le privé et ça, je trouve ça inadmissible.
Et votre collègue tout à l'heure, il a presque dit la même chose. Mais il m'a parlé de Macron aujourd'hui, mardi, il est là. Il m'a dit qu'on aurait dû aller faire la grève, faire le rassemblement devant là où il y a Macron. Comme ça, vous pouvez lui parler et déléguer quelqu'un, non? C'est pas une idée?
C'est une idée. Après, Macron, ben voilà, il est dans sa logique. Malheureusement, on ne prend pas le problème à la source. Aujourd'hui, ouais. Il va inaugurer un commissariat, il va inaugurer un nouveau bâtiment en Baumettes. En fait, il inaugure que de la répression. Voilà. Ce qu'a besoin la jeunesse, notre jeunesse, elle a besoin d'éducation. Elle a besoin qu'on s'occupe d'eux. Elle a besoin qu'on leur donne de l'espoir, qu'on leur donne des vocations et pas de répression. Si on en est là, c'est de la faute des gens comme Macron et comme tous les autres qui sont passés avant.
Vous faites le travail des autres, alors?
On le fait à notre échelle, après en toute modestie, mais oui, on fait, pour ma part, sans raconter ma vie, mais si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai envie de m'occuper de ces jeunes et de mettre mon petit grain de sable dans ce grand désert qu'est la France aujourd'hui.
On n'a pas l'impression ici en France que la France marche en reculant ou pas en avançant?
Qu'elle avance à reculons, ouais, ça c'est sûr, on ne fait que régresser, on le voit rien qu'à nos situations. On perd chaque année, moi quand je fais mes courses, je me dis c'est plus possible quoi, j'ai deux filles à nourrir, exactement. J'ai pas une situation mauvaise parce qu'on arrive à s'en sortir, mais on voit que tout est toujours plus cher, on a de moins en moins de temps pour nous et voilà, mais on le fait avec le cœur, c'est vraiment...
Qu'est-ce que vous réclamez?
Nous, ce qu'on réclame déjà, c'est qu'on ait une rémunération à la hauteur de nos compétences, qu'on soit plus rémunéré au SMIC, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une rémunération digne de ce nom. On ne demande pas à être à 2000, 2500 euros, mais au moins gagner 1600, 1700 euros net, quelque chose qui nous permettrait de vivre comme on vivait avec un SMIC il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus possible.
C'est-à-dire par rapport à l'inflation?
Par rapport à l'inflation, exactement. Voilà. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est avoir un réel statut de fonctionnaire de catégorie B, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour être AED, aujourd'hui, on nous demande d'avoir le diplôme du baccalauréat, et tout fonctionnaire qui a un diplôme du baccalauréat est de catégorie B. Alors, je vois pas pourquoi, nous, on nous demanderait des diplômes, et qu'en contrepartie, on n'ait pas le statut qui va avec. Ben, moi, ce que je veux rajouter, c'est que quand vous avez des gens qui sont passionnés par la jeunesse, qui ont envie d'aider la jeunesse, aidez-les aussi, s'il vous plaît. Nous, on aide nos jeunes, on fait ça par vocation. C'est plus un métier alimentaire, on fait pas ça pour se nourrir. On ne va pas gagner un SMIC pour se nourrir. Aujourd'hui, si on le fait, c'est un choix. Pour ma part, c'est un choix de vie. J'ai décidé de m'occuper des jeunes. S'il vous plaît, on s'occupe d'eux. Occupez-vous un minimum de nous et apportez-nous un minimum de reconnaissance et de respect.
Appelez-moi votre prénom et forme.
Christophe.
Merci Christophe.
Avec plaisir.
Et profession?
AED, surveillant.
Merci Christophe et bon courage.
Ben, merci de même.
Les horloges, le temps, les saisons. C'était toi, toi mon seul diapason. Tu étais ma clarté, ma guitare. Qui donc m'a dit qu'il était trop tard? Contre un seul petit moment de bonheur. Que de vacherie, Nini, que de vacherie. Contre un seul petit morceau de ton cœur. Que de vacherie, Nini, que de vacherie. La vie s'est arrêtée désormais. Je ne te reverrai plus jamais. Ici gîte un amour de mille ans. C'est la faute à personne et pourtant. Quand on a le cœur gros. On se tient comme il faut. On va pas déverser son chagrin sur l'épaule des copains. Contre un seul petit moment de bonheur. Que de vacherie, Nini, que de vacherie. Contre un seul petit morceau de ton cœur. Que de vacherie, Nini, que de vacherie. Pom 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 pom
pom pom pom pom pom pom pa da 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 da.
Alors, Adil Fajri, donc militant à Istres depuis de nombreuses années. Ce qui nous a motivé pour co-écrire le livre sur Georges Ibrahim Abdallah, déjà c'est un honneur collectif avec tous les partenaires de travailler sur ce sujet-là. Et puis nous, très rapidement, dans les années 2010-2012, on a pris connaissance de cette histoire. Et très rapidement, étant militant de la cause palestinienne depuis nombreuses dates, on a commencé avec un copain qui s'appelle Romain à La Ciotat, faire des interventions dans les cafés, dans les associations, pour faire connaître la cause de Georges. Ensuite, bien sûr, comme tous les militants, on a fait connaître cette cause-là, on allait à l'Almezan. Et puis aujourd'hui, on a commencé ce travail-là avec toi, René, bien avant que Georges sorte. Et aujourd'hui, on est heureux à la fois de la sortie, de la libération de Georges, et à la fois de la sortie du livre que tu vas présenter. Quartier libre, ça s'écrit pas comme on pense. Ça s'écrit pas comme quartier et libre. Ça s'écrit car tu es libre. Et en version quartier, ça fait quartier libre. Donc, cette idée que dans les quartiers, on est libre de la parole. Nous, c'est pour permettre une parole autonome, libre, parce que trop de personnes ont parlé à notre place pendant de nombreuses années. Et l'idée dans ce titre-là, c'est juste libère-toi, prends la parole et libère les freins que tu penses avoir dans ta tête et exprime-toi. Voilà, aussi simple que ça.
Quelles sont les principales actions que vous envisagez de faire par la suite en vue de la promotion de la parole libre des quartiers libres? Je te pose la question parce que les auditeurs ne le savent pas trop. Je suis le président d'honneur de ce mouvement.
Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir René, qui, au-delà de notre amitié, mais il faut reconnaître le travail de terrain qu'il a effectué pendant de nombreuses années. Et puis, à travers son site Madania, on peut en faire la lecture. Et puis, on peut être aussi critique de cette lecture. Mais nous, on a rien. Moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai rien trouvé à redire sur ses écrits. Et ce qui fait que notre connaissance, la fidélité en tout cas des idées, elle est là depuis 10 ans. Et le travail qui va être effectué avec René, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, c'est de faire une tournée. Alors, on va pas dire nationale, mais déjà dans le sud, à Montpellier, à Perpignan. Et j'invite les différents auditeurs qui sont dans les différents territoires, dans les différentes communes, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse aller avec René sur les terrains, parler du livre et puis aussi faire des ventes militantes, parce que la vente militante sera consacrée aussi à la lutte pour la cause palestinienne. تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واق وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية
Matenka, قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناء علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي وتلك قضية وتلك قضية سددت أذنين والعيلة المدفونة بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع سنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رهاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكذابة الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين فين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركى له صباح تلك قضية هذا كفاية
mars, il y aura les élections. Alors, dans quel état vous allez prendre ce virage qui est très important parce que la montée de l'extrême droite en force, on voit tout le temps, tous les jours, l'extrême droite à la télé.
Merci Camar pour cette question. Alors, nous, à Istres, c'est particulier. On a un candidat un peu arc-en-ciel. On a le Front National. On a un candidat de droite. Et on a quelques difficultés sur une candidate sur la France insoumise. Moi, je dis clairement à tout le monde, sans quiproquo, soutenez les candidats qui ont soutenu la cause palestinienne. La cause palestinienne, non pas que je veux en faire quelque chose d'emblématique, c'est qu'elle vous donne, elle est symbolique, elle vous donne une ligne directive dans ce que vous allez pouvoir avoir comme acquis. Et donc, soutenez tous les candidats qui soutiennent la Palestine. Ceux qui ne soutiennent pas la cause palestinienne après les 2 ans de génocide, détournez-vous d'eux, allez voter blanc, votez ce que vous voulez, mais ne le soutenez pas. Parce que ce n'est pas possible de donner une voix à des gens qui ont fermé les yeux sur 2 ans de génocide, sur 70 ans de socio-suicide, comme dirait mon ami René. Et donc, voilà, pas une voix doit aller vers eux. Moi, je tire mon chapeau aux militants et aux élus de la France insoumise qui n'ont pas voté la loi séparatisme en 2021 et qui n'ont rien lâché sur la cause palestinienne jusqu'à présent. Et je vous dis ça, je ne suis pas encarté France insoumise. C'est juste rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, voilà, il y en a qui pourront contredire mon propos, mais l'heure aujourd'hui est de soutenir la cause palestinienne en urgence et soutenir les peuples en général.
Personnellement, je ne voudrais pas faire des critères politiques. Français, vous qui allez voter, songez à l'histoire de la France. Il y a 80 ans, la France s'est pourvoyée dans l'extrême droite avec Pétain. Si jamais, en 2026, la France recommet une nouvelle erreur, dans des conditions qui ont radicalement changé pour la situation de la France, ce sera un coup mauvais pour l'avenir de la France et pour sa pérennité, pour son message universel à travers le monde. Un pays qui commet 2 fois la même bêtise est condamné à être relégué dans les poubelles de l'histoire. Songez à Pétain, songez à la victoire du Front National l'année prochaine, ce qui veut dire la victoire du pétainisme sur le gaullisme qui a sauvé et lavé l'honneur de la France, bafoué par le pétainisme.
La ville s'immisce, inspire dans la ville.
Notre deuxième interlocuteur aujourd'hui est Thierry Louchon. Thierry Louchon est président du comité Martigues Palestine. Thierry, je voudrais savoir quelles sont les activités de ce comité et pourquoi vous avez accepté de coéditer le livre Georges Ibrahim Abdallah, L'emmuré de l'homme, l'emmeson, un homme debout. À vous la parole.
Alors, je ne suis pas président du collectif de Palestine de Martigues, je suis animateur, simplement, du collectif Solidarité Palestine de Martigues. Ce collectif, il existe depuis 2014, à la suite des bombardements de 2014 sur Gaza, déjà, qui avaient fait 4000 morts à peu près. Et donc, on a décidé de créer un collectif qui puisse expliquer la situation en Palestine de manière continue, pérenne, pas simplement quand il y avait des bombardements. Donc notre activité, c'est de soutenir le peuple palestinien dans tous les aspects de sa résistance. C'est-à-dire, autant on sait que en cas d'occupation, l'ONU reconnaît le droit à la lutte armée, mais on ne soutient pas simplement la lutte armée, on soutient tout ce qui est résistance, y compris pacifique, tout ce qui permet à la société palestinienne de vivre, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on soutient l'agriculture palestinienne, l'artisanat palestinien, la cuisine palestinienne, la culture palestinienne, etc. Donc on intervient dans tous ces domaines-là, en faisant des conférences pour expliquer ce qu'est le sionisme et ce qu'est le colonialisme israélien en Palestine, pour expliquer, pour faire voir ce qu'est l'art palestinien et expliquer l'histoire de la Palestine. Voilà, donc dans ce cadre-là, évidemment, un des aspects de notre lutte, de notre soutien, c'est le soutien aux prisonniers politiques, que ce soit en Palestine ou que ce soit en France, comme Georges Ibrahim Abdallah. C'est pour ça que, quelques années après avoir commencé à exister, le collectif Palestine a participé aux campagnes pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On est allé plusieurs fois manifester devant la prison de Lannemezan et jusqu'à l'année dernière. Et voilà, et à l'heure actuelle, eh bien, on se réjouit de sa libération.
Est-ce que vous êtes resté en contact avec Georges Ibrahim Abdallah, puisqu'il est au Liban?
On n'est pas resté...
Des nouvelles, est-ce que
vous avez... Par contre, on a des nouvelles, évidemment, de Georges Ibrahim Abdallah. On a écouté ses déclarations, on a vu un certain nombre d'interviews qu'il a pu donner, et qui montre qu'il est toujours sur les sur les mêmes positions de combat tout à fait intransigeants sur la liberté du peuple palestinien et la lutte, le combat pour la liberté du peuple palestinien, qu'il relie très bien à l'ensemble de la lutte contre l'impérialisme mondial.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Thierry Louchon, je suis à la fois syndicaliste à la CGT, retraité et militant de la cause palestinienne.
Merci Thierry. présentez-vous.
Alors, je suis Daniel Bretonnet, secrétaire général de l'ULCGT de Martigues.
Alors, pourquoi on est là aujourd'hui ?
Alors, on est là aujourd'hui, nous, pour faire la promotion du livre donc, sur Georges Ibrahim Abdallah, parce qu'à la CGT, depuis sa création, on est contre les guerres l'impérialisme et les guerres en général. Donc, on s'est toujours mobilisé pour la paix. On s'est toujours mobilisé, que ce soit pour la Palestine, mais que ce soit contre le blocus pour Cuba, que ce soit contre la guerre d'Algérie, etc. On s'est toujours mobilisé pour ce genre de cause. Et pour nous, Georges Ibrahim Abdallah, il est le symbole à la fois de son côté de la lutte et, contre ce colonialisme en Palestine, mais il est aussi le symbole de l'autre côté de la répression d'un État envers la parole d'un homme qui se bat pour la paix et la justice. Donc on est vraiment aussi dans ces deux symboles, c'est-à-dire les États colonialistes qui attaquent ce genre de militants et qui en font, on va dire, des terroristes et des bandits. Et de l'autre côté, nous, on a ce héros, puisqu'il a sacrifié sa vie à la cause palestinienne. Donc nous, le lien, il est vite fait. Pour nous, Georges Ibrahim Abdallah, c'est le symbole du combat, c'est le symbole de quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais capitulé, même après 40 ans de prison, qui n'a jamais abandonné son combat. Et pour nous, c'est des symboles très forts, comme on peut être d'autres grands hommes comme Che Guevara ou etc. Georges Ibrahim Abdallah, c'est le grand homme
de le Mandela de Moyen-Orient, quoi.
Voilà, c'est le grand homme de la lutte pour la liberté de la Palestine.
Alors aujourd'hui, vous allez recevoir, si je ne me trompe pas, Salah Hamouri. Mais donc, pourquoi vous l'avez invité ?
Alors, Salah Hamouri aussi fait partie de ces grands hommes qui se battent pour la cause palestinienne, pour la justice, parce qu'on dit la cause palestinienne. C'est pour la justice. Là, on est vraiment dans une question de justice, d'humanité. Ce n'est pas un parti parce qu'on est nationaliste d'un côté et qu'on aime ce pays plus qu'un autre. Ce n'est pas du tout ça le fond. Le fond, c'est la justice. Le fond, c'est l'humanité, c'est le respect de l'humain, le respect des valeurs et le respect des idées. Salah Hamouri, depuis des années, se bat pour aider ceux qui sont victimes des injustices, donc les Palestiniens, mais aussi les Israéliens musulmans, qui sont victimes d'injustices dans leur pays et qui sont condamnés injustement. Salah Hamouri, en tant qu'avocat, a risqué sa vie et sa carrière.
On va préciser, c'est les Arabes israéliens.
Exactement, les Arabes israéliens, les musulmans israéliens, donc qui vivent et qui sont aussi, parce qu'on parle des Palestiniens, mais ils subissent énormément d'attaques, énormément de discriminations, aussi les Arabes israéliens. Donc on est toujours sur la même chose. On n'est pas d'un pays contre un autre, on est toujours sur la même chose. C'est les riches contre les pauvres. Il n'y a pas de religion, c'est pas vrai. Plus que dans d'autres pays du monde où il n'y a pas des musulmans et des juifs, on n'est pas sur ça. Dans d'autres pays du monde, c'est toujours le même problème. C'est des riches qui veulent coloniser les pauvres et exploiter leur pays. C'est partout pareil, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. On est sur la même chose. Même en Ukraine actuellement, le processus de paix qui est traité, c'est pour que les capitalistes s'accaparent toutes les richesses. Voilà où on est. Et toutes les guerres, c'est toujours la même chose. C'est pour que les riches en profitent et que les industries en profitent.
Donc aujourd'hui, vous allez présenter le livre de Georges Ibrahim Abdallah, écrit par ou qui ont collaboré.
Donc oui, on coédite donc ce livre. On a eu vraiment la chance que René Nabal, qui a écrit ce livre, nous laisse la possibilité, donc nous laisse les droits pour pouvoir l'éditer. Et pour nous, c'est un acte très fort et internationaliste qui marque à la fois notre attachement à cette cause, mais aussi qui montre aussi qu'il y a autre chose que ce qu'on entend dans les médias. Il y a autre chose. La réalité, elle n'est pas dans ce qu'on entend dans les grands médias, dans ce qu'on entend, la pensée unique qu'il y a dans les grands médias. Non, il y a autre chose. Et je pense aussi que les gens ont besoin aussi d'entendre cette parole et sont demandeurs d'une parole un peu différente. Et ce livre va participer. On a déjà édité 200 livres qui sont quasiment déjà tous partis. À peine il est sorti, on a déjà en commande, on a quasiment toute la totalité qui est partie. On est déjà en réflexion de le rééditer. Et on pensait qu'il allait plaire, mais pas à ce point. Et plus ça va, plus on se dit qu'on a eu raison de coéditer ce livre.
Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, un responsable de la CGT Martigues, donc CGT locale Martigues, et qui est un des co-auditeurs du livre de Georges Ibrahim Abdallah, sachez que Daniel est un homme solide, capable d'encaisser les chocs et de repousser les offensives. Je voulais le dire parce que j'ai pu le fréquenter. C'est une amitié solide, une solidarité militante. Exceptionnellement de qualité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et lui rendre hommage publiquement.
Bah, si vous voulez rajouter quelque chose, Daniel.
Ah, mais moi, je veux répondre à René que c'est lui qui nous fait honneur avec tout ce qu'il a vécu et toute son expérience de nous faire confiance pour éditer ce livre. Et c'est vraiment un honneur, et on l'a vraiment pris comme ça, qu'une personnalité comme René, qui a son vécu, tout ce qu'il a pu couvrir comme conflit armé, tout ce qu'il a pu vivre et les personnes qu'il a pu rencontrer, pour nous, c'est un honneur considérable.
Il s'est déplacé.
Ah, vraiment, c'est un honneur considérable pour notre union locale de pouvoir travailler avec cette personne-là.
Merci, Daniel.
Merci.
Période de préfète, nous allons donc abandonner un moment la poétique et nous plonger dans la rêverie et la poésie. J'ai devant moi une personne qui a à son actif cet ouvrage. Autant de thèmes de variation sur la poésie et l'amour. Martini Cabour, auteur, Les veilleurs du volcan, Les trains du volcan, Les tonnerres du volcan. Il est fasciné ou traumatisé par le volcan. Martini Cabour, présentez-vous. D'où venez-vous?
Ok, donc je viens de la Martinique. Je suis adopté à Marseille, mais je viens de la Martinique en fait, et d'une mère qui a vécu à Saint-Pierre et qui a connu l'éruption de la montagne Pelée en 1920. Cités, en fait, on avait créé des groupes, donc des clans. On se battait contre d'autres clans, mais bon, par amusement, c'était pas vraiment méchant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue des gens, alors qu'avant, on s'amusait différemment. Et on inventait aussi des histoires, donc par rapport à l'environnement. Donc, par exemple, il y avait une rivière, il y avait un gros arbre qu'on... à partir de ça, on imaginait des choses. On imaginait des vampires, on imaginait plein de choses comme ça, et on se racontait des histoires. Et donc, déjà là, ça créait l'imagination. Et pour la plume, comme j'ai dit, c'est la lecture. Donc, j'ai lu beaucoup de Baudelaire, beaucoup de Chateaubriand, Victor Hugo, tous les classiques, en fait. Et c'était peut-être un peu malheureux pour un Antillais, parce que je vivais sur une île et on me faisait lire des choses. Enfin, je lisais des choses de l'étranger, de la France. Et au fur et à mesure, après, on comprend en grandissant qu'on peut lire aussi nos propres auteurs, aux auteurs autochtones. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à lire du Glissant, du François Blanc, du Césaire, tous les grands de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc la différence, c'était que je trouvais qu'il mettait trop de patois dans l'écriture. À part Césaire, qui avait une autre manière de penser, qui jusqu'à maintenant c'est compliqué. Mais il mettait trop de patois dans les écritures. Et je me suis dit, je peux faire un mélange entre la poésie classique, donc Victor Hugo, même du Molière, un peu le côté... versatile, parce que Molière et Racine écrivaient en alexandrin, et ça me donnait envie d'écrire dans ce style de manière de style d'écriture, une écriture
poétique, puisque l'Alexandrin, c'est de la poésie. Et Molière, en faisant ses pièces de théâtre, Racine en faisant ses pièces de théâtre, c'était des Alexandrins, donc c'était de la poésie pour moi. Et donc je me suis imprégné de cela, et donc ça m'a permis de créer ma propre écriture, qui était de la poésie. Que maintenant, aujourd'hui, j'appelle plus de la poésie, mais de la mytho-poétique. Parce que je me base sur de la mythe et aussi sur tout ce qui est mythe. Et donc, c'est. Mythe et réel. Oui, parce que je me fonde sur la réalité, sur les choses concrètes, pour faire ma petite fiction mythéotique. Mais voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'ouvrage qui va sortir en mars, La montagne qui ne dort jamais, eh bien, c'est tout de la fantaisie mythopoétique. Et donc, il y a d'autres ouvrages comme ça qui, en principe, devraient sortir, mais pas pour le moment.
Alors, vous avez parlé de tous les écrivains célèbres à leur tête, Aimé Césaire. Il y a un qui nous a marqué en tant qu'Algérien, c'est François Vanon. Pour vous, François Vanon, c'est qui, c'est quoi?
Pour moi, François Vanon, c'est un personnage qui n'a pas été valorisé suffisamment en France, même qui a été dénigré en France, parce que peut-être parce que noir, hein, et qui a fui la France, en fait, pour moi, hein, qui a fui la France, donc les Antilles, pour se réfugier en Algérie. Et c'était un psychiatre, c'était quelqu'un qui, pour moi, c'est je le place un peu avant Aimé Césaire. Et donc, j'ai, comme vous dites, j'ai été peut-être traumatisé par ce volcan ou fasciné, parce que depuis tout petit, je m'intéresse aux ruines de Saint-Pierre. Et puis, pendant 20 ans, j'ai travaillé sur la pensée de Saint-Pierre. Et j'ai mis en place, après, donc j'ai...
Pardon, Saint-Pierre.
Martinique.
La capitale, pas...
Saint-Pierre, la Martinique.
Qui est à la droite de Dieu, non?
Voilà, c'est Saint-Pierre qui était effectivement l'ex-capitale de la Martinique, on peut dire ça ainsi, qui était le petit Paris des Antilles, et qui donc a été détruit en 1902 avec plus de 30 000 morts. Et donc, ça m'a tellement fasciné que depuis plus de 20 ans, je travaille dessus. Et puis, j'ai sorti à partir de là des ouvrages, un triptyque, donc les trains du volcan, les tonnerres du volcan et les veilleurs du volcan. Ça, c'est le premier triptyque.
Je dois vous dire une chose, votre plume est fluide. C'est pas un hasard. La Martinique a produit de très grands écrivains.
Oui. Aimé Césaire, Glissant, François Fanon aussi, qui a connu...
Justement, c'est les deux grands. C'est les deux grands. Bravo. Oui. Pour un petit pays, à produire de deux géants, c'est pas mauvais comme bilan. Donc, on en était on est encore à l'étreinte de l'amour. Donc, c'est fascinant, votre style.
C'est un style qui est un peu poétique, mais qui est... Tout est basé sur des faits réels. Donc, l'étreinte du volcan, il s'agit on parle donc de l'histoire de Gabriel et Solémé. Gabriel, c'est un métis, donc quelqu'un de un mélange entre les blancs et les noirs, donc on s'appelle métis, et d'une française, d'une blanche, donc Solémé, et donc cet amour va être impossible en principe. Et donc le but du jeu, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir alors que la montagne pelée va exploser, et qu'il y a aussi le problème de législation, enfin de il y aura donc effectivement un, oh, j'ai oublié comment ça s'appelle, il y aura un vote législatif qui devra aussi être apparaître au 10 mai 1902, et donc tout cela ça forme quelque chose qui c'est une explosion. Est-ce qu'on doit suivre là, on continue au niveau des votes, est-ce qu'on continue au niveau de l'amour, ou est-ce qu'on doit fuir la ville parce que le volcan va éclater?
L'amour est éternel. Votre histoire, c'est une retransmission de Roméo et Juliette sous les tropiques.
On me l'a déjà dit, c'est vrai.
Je suis désolé, mais moi je viens de le constater, je viens de le lire.
Et donc ça c'est pour le premier tome, du triptyque, donc l'étreinte du volcan. Et puis ensuite il y a toute une partie poétique, donc les tonnerres du volcan, oui. Où ce sont des poésies en acrostiche,
donc Saint-Pierre et donc des poésies, qui racontent un peu l'histoire, la mémoire de Saint-Pierre. Et c'est depuis peu, en fait, que je me suis vraiment dit, il faut que je publie mes ouvrages. Et donc, j'ai quand même fait de la science économique et juridique. Donc, je suis issu de littéraire, mais je suis quand même scientifique.
La clé m'a la même, personne va qu'à dire, moi, y'a là où sorti. Oh, oh,
Sur les apprentissages, c'est la lecture. En tant que littéraire, j'ai beaucoup lu.
Vous lisez et vous, ça vous a donné envie de faire des poésies, des poèmes?
Et oui, c'est comme la culture, c'est cela. La culture, la lecture, c'est l'évasion. Lorsqu'on lit un ouvrage, quel que soit, avec du Victor Hugo ou du Glissant ou d'autres auteurs de pays différents, on voyage et on transforme son esprit. Et à partir de là, on peut créer, on peut écrire. Et bon, il faut aussi avoir l'ambition, l'amour de l'écriture et de bien écrire sur tout ça.
Qu'est-ce qui vous a fait de choisir Marseille comme lieu d'échouage?
Là, c'est un autre problème. C'est un problème de, comme on dit, il faut vivre. Et donc, vivre, c'est travailler. Il faut travailler pour vivre. Et donc, mon travail m'a amené à Marseille.
Le métissage, le brassage, c'est plus valorisant en termes de communication.
Tout à fait, oui, effectivement. J'ai vécu à Grenoble, enfin, Martinique, Paris, Grenoble et Marseille. Et c'est vrai que là, il y a un métissage. J'ai adopté Marseille, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis à Marseille.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Votre style est captivant. La poésie ne cherche pas à comprendre. Elle entend, elle garde, elle dit. C'est sublime comme texte, là. Merci. Vraiment, ça encourage les lecteurs à lire cette compilation de poèmes.
Oui. Et donc, justement, je suis allé sur Amazon, parce que mes ouvrages se trouvent sur Amazon, sur la plateforme. Et j'ai vu un commentaire aujourd'hui, qui est sorti le 14 ou 15 décembre, et effectivement, la personne disait qu'elle pensait que les poèmes qui étaient dans ce bouquin étaient des poèmes différents. Et il trouve que c'est des poèmes qui racontent la même histoire.
Avec des sensibilités et des sentiments différents.
Exactement.
Des différents sentiments. Vous êtes un romantique, finalement.
Ah, un très gros romantique.
Et un grand amoureux.
Et un grand amoureux.
On vous souhaite beaucoup de bonheur.
Voilà, et donc, ça c'est le deuxième livre du triptyque. Il y a un troisième ouvrage qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Les Veilleurs du Volcan, et donc qui est une suite de L'étreinte du Volcan.
Je vois que vous avez une triptyque sur le volcan. Émouvant. Voilà notre exemple. À mesure qu'elle avance, Elina découvre que les morts n'ont jamais cessé de veiller.
Eh oui.
Chapeau. Et que certaines vérités ne se transmettent qu'à ceux qui osent écouter.
Et donc, effectivement, heureusement que vous parliez de ça, parce qu'en fait, les morts, ils se mettent à veiller. Et ceux qui écoutent vont pouvoir retrouver la mémoire de ces morts et honorer ces morts. Et donc, il y a un ouvrage qui va sortir en 2027, en mars 2027. C'est donc La montagne qui ne dort jamais. C'est le premier roman fantasy antillais.
Ah.
Oui.
Ce genre de livre, il faudrait le sortir en novembre, là, parce que vous parlez beaucoup de morts aussi. Il y a la fête des morts.
C'est vrai. On va en parler en novembre. Mais en fait, c'est un roman fantasy où l'héroïne va rencontrer le prince maudit, et à partir du prince maudit, donc, il va y avoir des choses qui vont se passer pour toujours sur la montagne Pelée. Hein.
Est-ce que vous êtes toujours polarisé sur la Martinique, ou maintenant que vous avez baigné dans le jus marseillais, vous allez nous faire une synthèse culturelle digne de vos prédécesseurs?
Peut-être, donc, parce que là, j'ai déjà beaucoup d'ouvrages en revue. J'ai 3 ouvrages qui doivent sortir en 2027, 2 en 2026. Donc, on n'a pas encore vu du côté de... Mais c'est possible parce qu'il y a un lien entre Marseille et la Martinique. Parce que si on regarde les usines de sucre ici, ils ont récupéré le sucre des cannes à sucre de la Martinique.
Comme donc il y a comme du Sénégal,
c'est ça. Voilà. Donc effectivement, donc on a un lien. Ce lien, je l'ai pas encore mis en exergue, mais ce sera bientôt le cas. Oui, ce sera bientôt le cas.
Il y a une question à vous poser en conclusion de cet entretien. Qui a volé le cochon de Noël?
Tout le monde me pose la même question. Qui a volé le cochon de Noël? Donc, le cochon, bon, effectivement, pour les auditeurs, il faut savoir que Qui a volé le cochon de Noël, c'est un ouvrage qui est sorti pour Noël. C'est un avant de Noël, un roman de l'avant de Noël, donc qui est lu chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'au 24 décembre. Et au 24 décembre, les gens sauront qui a volé le cochon de Noël.
A-t-il été volé, ce cochon?
C'est une très bonne question. Moi-même, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé au 24e chapitre. Je conseille de le lire, comme ça on saura qui a volé le cochon de Noël.
J'en manquerai pas, mais un conte de Noël entier. Hein.
Entier, oui.
Ça change un peu de l'européocentrisme.
Oui, parce que dedans, il y a, dans cet ouvrage, Qui a volé le cochon de Noël, il y a des recettes antillaises, il y a des histoires antillaises. Donc tout, c'est un mélange entier.
Et des gâteaux.
Bon, ouais. Oui, le bouquet.
D'accord. Mais je vous remercie. Mais à bientôt.
Won't someone help me, 'cause I've got to be.
vous rappelle que Martini Gabouri est un écrivain de la mémoire et des filiations oubliées. Originaire de la Martinique et vivant à Marseille, il tisse une œuvre littéraire puissante et poétique ancrée dans le silence de l'histoire. Il mêle l'exigence de la rigueur à la sensibilité du verbe pour faire surgir sous la cendre les voix effacées. Son univers s'articule autour de Saint-Pierre, la ville disparue lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Qu'il explore à travers un triptyque littéraire, l'étreinte du volcan, les tonnerres du volcan et les veilleurs du volcan. À la croisée du roman, de la poésie et de la mémoire, son écriture convoque les figures du sacré, les silences familiaux, les fantômes de l'histoire coloniale. Voilà, c'était l'essentiel de l'émission. Restez avec nous, il y a encore des surprises. On est là jusqu'à 18h.
Zigara da zuda lwa da sa alwahid sa
Tinariwin les traces
da sa alwahid sa
Indésirables dans leur pays, le Mali est en proie à une rébellion qui perdure. Plus de 900 Touaregs ont trouvé refuge à ce jour au Burkina Faso voisin. Un stade de la capitale, Ouagadougou, a été mis à leur disposition par les autorités. 300 réfugiés, hommes, femmes et enfants, pris en charge par la Croix-Rouge burkinabé et par la Commission nationale pour les réfugiés, CONAREF. Ils sont déjà installés, d'autres ont préféré se réfugier dans de petites localités. C'est pour cela que j'ai été contacté par un ami Touareg pour me présenter un autre rapatrié, Tergui. Du Mali au Burkina Faso. Sid Ahmed Argd Moussa, réfugié au Burkina Faso, a fui le Mali. Sa famille a été massacrée par une milice affiliée à l'armée malienne. Tombé gravement malade dans le camp des réfugiés, une femme qui travaille avec une association humanitaire a réussi à le ramener en France pour le soigner. Je vous laisse écouter Sid Ahmed Agd Moussa.
Touareg, mais France est par adoption. Et depuis 1990, je suis en France. J'ai fait à peu près 13 ans. Je ne suis pas rentré au pays jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, je suis rentré pour un mois. Et cette année, je suis retourné dans le même camp de réfugiés où j'ai été adopté la première année en 1994. Avec beaucoup plus de monde, j'ai vu qu'il y a énormément plus de monde qu'en 1994 quand je suis parti. Et vu ce qui s'est passé là-bas, et ben, je suis resté pendant 6 mois à l'intérieur du campement même et 9 mois en tout, dans l'ensemble du terrain. Donc tout d'abord, je tiens à présenter que le problème Touareg et Mali ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça date des années 63. C'est quand même pas rien si un problème qui date des 63 revient tous les 5, 10, 3 ans. C'est qu'il y a vraiment un os quelque part. Aujourd'hui, on nous fait croire que les Touaregs c'est cela, les Touaregs c'est là, mais la réalité reste quand même un problème qui date de bien avant l'apogée du terrorisme international, de bien avant les problèmes islamistes en Algérie ou ailleurs, et que ce problème-là n'a rien et strictement rien à voir avec les problèmes terroristes ou islamistes. Leurs problèmes sont à eux. Ils sont comme une maladie qui rentre dans une famille et ne fait pas de frontières. N'importe quelle famille, quand elle a une épidémie dedans, n'importe qui peut être contaminé. Il y aura des survivants, mais il y aura des contaminés. Certains, ils vont tomber malades, ils vont être sauvés, d'autres, ils vont tomber malades et en mourir. Et c'est ça, le terrorisme, c'est une véritable épidémie. Le campement aujourd'hui, quand je dis campement, je parle bien des réfugiés, ils sont répartis, c'est les trois pays qui sont frontaliers, quatre pays qui sont frontaliers du Mali. Au nord, l'Algérie, un peu plus au nord encore, de l'autre côté, la Mauritanie, un côté, le Niger, et de l'autre, le Burkina Faso. Il n'y a pas un de quatre pays frontaliers de l'Azawad, pour ne pas dire le Mali, puisque le Mali est bien inhibé. Mais les quatre pays frontaliers du Mali et de l'Azawad, il n'y en a pas un qui n'a pas des gigantesques camps de réfugiés, qui ont fait les mêmes fuites qu'en 90. Un endroit où toi, tu as vécu, tu as vu monter le château d'eau par HCR, et tu reviens 10 ans après avec tes enfants et te reloger dedans, tu vois bien que tu ne peux pas te permettre de laisser ça éternellement. Les réfugiés, Dieu merci, ils vivent bien mieux dans le camp des réfugiés que dans l'ex-Mali même. Ils ont moins de peur, ils ont moins de contraintes, des arrestations perpétrées par l'armée malienne dans le passé. Et aujourd'hui, eh ben, ils ont le médecin, ils ont de l'eau, ils ont des toilettes, ils ont à manger, de quoi à s'asseoir par terre, ils ont des tapis pour s'asseoir par terre. On peut dire même, alhamdoulilah, ils vont beaucoup mieux qu'au pays, même s'il y a des péripéties. Ils essayent de rester en entente avec les gens autochtones qu'ils ont trouvés sur leur terre, c'est normal, ils les ont accueillis, mais tout va bien. Ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Arzawad. Avec les problèmes terroristes, ça a compliqué les choses. L'arrivée de l'armée française a donné beaucoup d'espoir aux gens. Mais la France a commis une très, très, très grave erreur. Ils sont fait revenir l'armée malienne, l'endroit où MNLA les avait poussés. Certes, les terroristes ont infiltré les trucs, mais les terroristes ne sont pas d'origine malienne. Le terrorisme international n'est pas d'origine Touareg. Le Touareg est un homme de paix, d'accueil. Certes, il est têtu, certes, il est obtus, certes, il a des traits de caractère très, très, très forts. Mais ça reste un homme respectable, respectueux plutôt, et respecté. C'est pas du tout dans son tempérament de faire des actes irrespectueux ou de faire des actes inconsidéré. Mais on sait tous à travers le monde qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Ça, c'est pas propre aux Touaregs, c'est pas propre aux Chinois, c'est pas propre aux Français. C'est dans l'homme. Il y en aura toujours un ou deux qui sont prêts à sacrifier même le leur pour avoir plus de fric. C'est là où je vais en venir, c'est ça le problème de deux journalistes de Kidal. Les deux journalistes de Kidal, ça peut être probablement des Touaregs qui les ont enlevés, mais pour le compte du Mali, mais pour le compte des terroristes, et pour, proprement dit, nuire à la liberté de l'Arzawad et la conformité des textes MNLA, et même l'idéologie même du MNLA, parce que tu ne peux pas combattre la terreur que par la... Je vais dire, tu ne peux pas à la fois vouloir être libre et s'aimer la terreur. Si toi, dans ton profond inconscience, tu veux la liberté, tu ne peux que respecter la liberté. Les journalistes, si on en peut, si on en trouve, on le payera pour faire des reportages dans leurs ouades. On les amènera au campement. Et il n'y a pas un journaliste qui connaît bien les Touaregs qui pourra pas confirmer qu'il a toujours été bien accueilli, qu'il a toujours été guidé. Le seul moment où ça coince avec un Touareg, c'est quand tu commences à lui parler des dieux. Ou de l'idéologie qui n'est pas le sien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le terrorisme est une épidémie. C'est l'image que j'ai, moi, du terrorisme. Il est semblable à une épidémie. Certes, dans l'absolu trait des caractères originels du Touareg, c'est la paix. Très combatif, très révolutionnaire, très défenseur, mais avec une bonne conscience des libertés, un bon respect de la liberté. Mais malheureusement, avec l'arrivée dans Sardine et l'arrivée des terroristes, il y a beaucoup, alhamdoulilah, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont changé de camp, comme l'ont fait des Français, comme l'ont fait des Chinois, comme l'ont fait des Japonais, pas particulièrement des Japonais puisqu'on n'a pas encore réellement prouvé un Japonais au sein des terroristes, mais il n'y a pas beaucoup d'ethnie du monde qui n'ait pas été un jour ou l'autre influencé par l'extrémisme. On a connu des nazis et il y a toujours des néo-nazis. Et les terroristes, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des Touaregs qui n'ont aucune conviction religieuse, mais qui courent derrière le fric. Ils utilisent n'importe quel moyen pour s'en procurer. Il n'y a pas de boulot, donc je n'ai pas, même pas envie de travailler de toute façon, mais je vais du fric. Et ils sont prêts à faire tout. Maintenant, l'image exacte dans Sardine, c'est Iyad Agar Ali, un Touareg de fraction Iforas. Moi-même, mon père est d'Iforas, mais il a été consulat malien en Arabie Saoudite. Depuis ce moment, il est rentré en contact avec des Qatariens, des princes arabes du Qatar. Il est rentré en contact avec les services secrets de tous les univers. Je ne veux pas citer un pays en particulier. Et il a goûté à des choses dont j'ignore le commencement ni l'apogée. Et c'est ça qui a donné naissance en Sardine. Tous les Touaregs qui sont rentrés dans Sardine, la plupart, ce n'est pas des convictions religieuses, c'est le fric. Ou les moyens, après, de ressortir avec les moyens pour leurs awads. C'est tout un business qui n'est pas explicable. Mais principalement, le fric. Parce qu'il faut bien savoir que les terroristes sont aidés à travers le monde. Elles sont aidées par les pays qui, soi-disant, combattent des terrorismes. Parce que c'est des secrets, parce que c'est des business, parce que c'est de la géopolitique contemporaine pourrie. Et la géopolitique, dès qu'elle commence à rentrer dans une affaire, cette affaire se complique systématiquement. Il y a des informations qu'on n'aura jamais. Même en creusant, même en cherchant, il y a des informations, des origines des choses qu'on ne verra jamais s'éclaircir. Parce que c'est de la politique. Donc, oui, il y a des Touaregs terroristes. Oui, y en a. Mais ces Touaregs-là sont plus nuisibles aux Touaregs même, à l'Arzawad même, que le sont même à travers le monde. Nous, MNLA, nous, on déplore ce qui s'est passé à Kidal. Parce que c'est aussi déchirant pour les familles qui ont perdu les leurs que les déchirants pour nous-mêmes, pour notre propre indépendance, pour notre propre liberté, parce qu'on essaye de nuire à notre démarche et déstabiliser la région pour dire que cette région, voyez-vous, elle n'est pas apte à s'autogérer. Et ça, c'est l'affaire des politiques. C'est peut-être des Touaregs qui les ont enlevés, mais c'est des Touaregs qui ont été payés pour les enlever.
Comment ça fonctionne dans les campements? Puisque vous étiez là-bas, vous êtes resté 6 mois dans le campement là-bas pour voir les cousins, et surtout avec le HCR, avec les médecins du monde, avec comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça?
Au sein du campement, il y a plusieurs ONG. Des ONG plus ou moins internationales et des ONG nationaux. Burkinabé, qui travaillent en parallèle avec HCR. Croix-Rouge, Médecins du Monde, tout ça, ils y sont. Le Croix-Rouge et certaines ONG emploient des jeunes de campement pour faire l'intermédiaire entre eux, les campements et les gens. Il y a aussi des ONG comme Croix-Rouge qui essayent aussi d'équilibrer l'entente, déstabiliser l'entente entre les réfugiés et les autochtones. Et donc, avec tout ça, ils essayent de faire des très gros travaux, mais ils ont oublié le principal. Ils essayent d'interdire le mot MNLA, ils essayent d'interdire le mot Azawad, ils essayent de... Limite, ils font régner l'ordre par la terreur. Ils essayent de faire régner l'ordre par la terreur, or que ils ont oublié que ces gens-là, s'ils ont fui de chez eux, c'est pour confirmer le mot Azawad. Moi, je fuis de chez moi, tu m'accueilles et tu m'imposes les mêmes problèmes que j'ai fui. N'attends pas de moi d'être un bon ami. N'entends pas de moi d'être des coopératifs. La dernière fois, par exemple, nous avons eu des t-shirts. Nous avons fait faire des t-shirts MNLA. Donc, au sein du campement, il y a quelques jeunes qui portent des t-shirts écrits dessus MNLA, comme pouvait écrire dessus Nike ou Adidas, ou n'importe quoi, ou la France. Des militaires maliens, burkinabés sont venus pour essayer d'interdire de porter ces t-shirts. Ils ont fait obliger un jeune Touareg à se déshabiller devant tout le monde, ce qui est équivalent à la mort chez nous, déshabiller quelqu'un devant les autres, pour enlever les t-shirts. Le jeune, il dit tout simplement, j'en ai pas une autre à mettre tout de suite, il lui dit qu'il enlève tout de suite, il oblige l'enlever. S'il n'y avait pas mon frère qui enlève un deuxième t-shirt qu'il avait, Croix-Rouge dessus, et lui donner vite fait, il l'aurait déshabillé devant tout le monde. Tout simplement parce que c'est écrit MNLA dessus. Ça, c'est le problème des gestions. Le problème de savoir vivre avec les autres au campement par rapport au Burkina. Mais dans l'ensemble, le campement lui-même, les gens eux-mêmes, Dieu merci, ils vivent mieux que dans l'Azawad. Ils ont beaucoup plus de choses, de quoi vivre là, qu'ils l'avaient dans l'Azawad. Ils ont eu des écoles, un peu très tard, divement, mais ils les ont eues.
Sidi Ahmed, vous avez connu le groupe Tinariwin. Et qu'est-ce qu'il devient, ce groupe, après l'assassinat? Comment est-ce que vous avez eu des contacts avec ce groupe ou non?
Tinariwin, en ce moment, certains membres, ils sont peut-être à Paris. D'autres, ils sont... Je crois qu'il y en a un vers Londres. et d'autres encore dans leurs OAD même. Je pense qu'avec le nouveau bouleversement, je pense qu'il y aura un album qui va sortir. Mais il faut savoir que Tina Ruen ne sort plus réellement des nouvelles chansons, nouvellement écrites. Tout ce que Tina Ruen ressort en tant que nouvel album, c'est des albums de jadis, 90, 84, 94, mais qui n'ont jamais été édités au niveau international. Ils sont restés quand même des chansons écrites, mais inédites. C'est un groupe qui se bat pour l'Arzawad, pour le peuple Touareg, et ensemble pour la liberté en général, avec une touche de mazérité. Puisque avant tout, on est quand même des Imouhars. Donc forcément, quand on se bat, il y a toujours le mot... La racine de la chose qui revient, la mazérité du Touareg, l'appartenance de Tifinagh, de l'écriture Tifinagh, l'appartenance de la langue berbère, du monde berbère. Donc c'est ça que Tina Ruen transporte avec eux. Malheureusement aujourd'hui, le monde n'accepterait pas ce qui est extrêmement navrant, c'est aussi déplorant que pour la mort et beaucoup de choses pour un journaliste et autres, c'est aussi navrant pour nous vis-à-vis notre côté Touareg, c'est aussi navrant pour nous de savoir que Tina Ruen ne peut toujours pas chanter avec le drapeau de l'Arzawad. Ils ne peuvent pas faire un concert avec un drapeau de l'Arzawad. Donc ça aussi c'est une oppression de la liberté. Mais pour le moment, ils sont à l'ombre. On ne les entend pas trop parler depuis quelques mois et peut-être dans pas longtemps ils vont ressortir.
Quel regard vous donnez sur les médias ou les critiques françaises sur les Touaregs?
Tu veux dire en tant que Touareg, en tant que membre des MNLA?
Ouais.
Eh bien, manque d'objectivité, manque de clarté d'esprit. Parce que la France connaît le Touareg. La France appelle le Touareg l'homme libre. La France appelle le Touareg l'homme bleu. La France appelle le Touareg l'homme du désert. Et pourtant, dès qu'il y a une petite perturbation, on le classe comme le diable. Même dans la mythologie, il y a des bons et des mauvais. Pour parler de l'Égypte que je connais, il y a Horus, Osiris et il y a Apophis. Et on n'a pas toujours pas saisi en France de faire la différence entre le bien et le mal. Quand ça les arrange, on dit le Touareg, l'homme libre, on rêve du monde Touareg, la silhouette d'un homme sur le dos dromadaire dans le désert, et que, dès qu'il y a un problème, on le montre comme des diables. Donc il y a une contradiction dans la vision française. L'information est très mal donnée et faussée. Comment peut-on imaginer un instant que ces deux amis d'Yamenela, ces deux coopérateurs d'Yamenela, les journalistes, soient tués par Yamenela? Comment on peut croire que ces journalistes-là sont tués par des Touaregs? Il y a des milliers de Touaregs qui en meurent aussi. Dans ces milliers, il y a des enfants, des femmes, des vieilles, des soldats. On a fait un tabac incroyable, une affaire extraordinairement grave pour des soldats maliens égorgés par un sardi au début du combat. Mais un soldat, quand il prend son arme et partir sur le terrain, il cherche la mort. Qu'il soit tué par fusil ou abominablement par un couteau, c'est la mort qu'il est parti chercher. C'est le combat. C'est dans le combat qu'il est. Mais un journaliste ne doit pas. Parce que c'est le chevalier de la liberté, il ne doit pas en souffrir de cette façon. Et ça, ça ne peut pas être un acte d'Yamenela ou de Touareg. Si c'est des Touaregs qui les ont enlevés, je confirme, c'est des Touaregs qui sont payés pour le faire.
Justement, Hama Agd Sid Ahmed écarte l'implication d'ACMI et du Mijaou, les principaux groupes terroristes en activité dans le Sahel. Est-ce que vous confirmez?
Ça, avec le respect que j'ai pour lui et les connaissances que j'ai de lui, je sais qu'il doit être dans parmi les personnes qui ont l'information. Donc, s'il les dit, c'est que c'est vrai. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une affaire beaucoup plus compliquée que ça n'a l'air. Et les personnes qui ont qui ont été l'origine de cet acte, de cette atrocité, ne sont forcément pas pour le bien de l'Arzawad, ni du Touareg, ni de la région, et pour aller au-delà même ni de l'Afrique en général. Parce qu'il faut bien savoir que le monde aujourd'hui est quand même tordu. Donc, il est probable que c'est les affaires maliennes qui ont poussé à déséquilibrer la région. Donc, si ce n'est pas les terroristes tels que Ansar Dine Hakimi ou Mujao, c'est encore plus grave.
Alors, on revient à Sidi Ahmed. Vous avez vécu beaucoup en France. Racontez-nous votre parcours, comment vous êtes venu. Et si je ne me trompe pas, vous étiez adopté par une famille française. Alors, racontez-nous votre parcours.
Moi, je suis d'origine Touareg, donc, mais adopté par une mère française. C'est mon trajet confirme exactement et le monde Touareg d'aujourd'hui, les problématiques du monde Touareg aujourd'hui. En 94, j'ai été adopté en 94. Je ne sais plus exactement, peut-être 10 ans ou 9 ans, puisque je ne connais pas réellement ma date de naissance, donc je pense que c'est vers 10-11 ans. Mais avant d'être adopté, j'étais dans un campement de réfugiés, en tant qu'orphelin, et j'ai vu le monde des réfugiés. Et quand je suis retourné cette année, c'est le même monde, 90 à 94, jusqu'à 97, puisque je suis parti de Burkina en 96, c'est le même péripétie qui se déroule encore. Et si on n'y fait rien, les 10 ans à venir, elle va se reproduire. Et c'est pas un petit accord comme il y a eu lieu en 94 avec le Mali qui va changer les choses. C'est pas une petite signature à la noix qui va améliorer les choses. Donc, en 94, plutôt je vais dire 92, lorsque l'armée malienne a détruit pas mal de campements, mes parents sont morts aussi à cette époque-là. Oui. Et mon père aussi, il avait 6 frères et lui. Donc tous ces pères-là, ils sont passés à cette époque. Ils sont passés outre à cette époque. Donc, arrestation de l'armée malienne. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à émigrer vers le Burkina en tant que réfugiés. À l'époque, HCR n'a pas pris en charge tous les réfugiés du premier coup. Ils sont restés errés dans le Burkina pendant plus de 3 ans. Sans être secouris en tant que réfugiés. C'est à partir de 93 que le camp des réfugiés ont commencé à être créé. Ça a commencé d'abord à la capitale même, Ouagadougou, et après ça a commencé dans tout le pays, au Burkina. Et donc de là jusqu'en 94, ces camps de réfugiés commençaient à se former. Et moi j'étais tombé malade en 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Et c'est une dame qui travaillait à l'ambassade de France, qui était pied noir d'Algérie, qui venait faire des distributions dans les campements avec ses propres moyens, qui m'a pris en charge et c'est elle qui est devenue ma mère adoptive aujourd'hui. Je pense recevoir la culture française, je pense à faire partie intégrale de la France, mais il y a une très grande partie qui est la richesse du multiculture en fait, et qui est Touareg d'une part. Et il peut arriver ce qui peut arriver, mais je resterai fondamentalement Touareg et je combattrai toujours par la cause qui m'a fait quitter mon pays et qui a fait devenir de moi un Français. C'est une bonne chose.
Voilà, mes chers amis, mes chers auditeurs, l'émission s'arrête là. Il me reste à vous dire à jeudi prochain, même jour, même heure. Bonne fin de soirée. Restez fidèles à Radio Galère. Ciao, arrivederci, à jeudi.
الحر نسوه
يا رواهي الحر نسوه
يا قال لندغ ما نسيت قال داتي يا قال تسيست
يا قال لندغ ما نسيت قال داتي يا قال تسيست
يا رواهي الحر نسوه
يا رواهي الحر نسوه